présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La liberté des dieux. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque dépesée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Ah,
Hésitant, il va sonner à la porte de l'appartement. Hésitant, il sonne à la porte de l'appartement. La porte est ouverte. Apparaît un homme en maillot de corps taché, blanc et en pantalon bleu. C'est le père de Daniel. Qu'est-ce que c'est ? Philippe dit gêné. Bonjour monsieur, je suis un ami de Daniel et je viens le chercher, père dit. Il sort tout le temps. Une voix de femme demande. Qu'est-ce que c'est ? Le mari crie. Un copain de Daniel. Qu'est-ce qu'il veut ?
Rien, madame, je viens le chercher.
La femme fait. Ah ! Encore ! Tu sors ! La voix de Daniel dit. Oui. Des pas. Daniel qui apparaît et dit. Salut. Philippe fait. Salut. Daniel lui dit. Entre. Il entre. Le père abruti leur dit, tu fais rentrer des étrangers comme ça? Daniel lui dit, mais c'est un ami, c'est pas un étranger. Viens, Philippe. Philippe suit son ami, sans oser regarder autour de lui. Il est gêné et a peur de voir des choses qu'il ne faut pas. Il se dit que chez les pauvres, ce n'est pas comme chez les autres. Daniel ouvre une porte. La mère dit, tu vas dans la salle à manger? Philippe se retourne et voit la voix. C'est la mère de Daniel, une petite grosse femme à cheveux blancs en désordre, habillée avec une blouse bleue et des charentaises en laine rose. Il lui dit, bonjour madame. Elle lui dit, bonjour. Elle demande, alors, c'était qui? Pourquoi tu vas dans la salle à manger? Daniel lui dit, c'est pour mon ami. Et fait entrer Philippe dans la pièce. Ça sent le renfermer. Il y a des meubles genre galerie Barbès ou Monsieur Bricolage, des housses en plastique dessus pour empêcher qu'ils se salissent. Daniel enlève la housse du canapé en PVC, fait asseoir Philippe. La mère dit, tu enlèves les housses, vous allez tout dégueulasser. Philippe est rouge de honte. On lui dit qu'il va dégueulasser les meubles. Daniel furieux lui dit, mais on les rangera après. Et lui dit, c'est ça. Philippe dit, je ne veux pas faire de dérangement. Daniel lui dit, assieds-toi. Philippe gêné s'assoit sans s'appuyer au dos. Daniel lui demande, tu veux boire quelque chose? Philippe lui répond, non merci, je ne veux pas déranger. « Mais tu déranges pas, alors ?» Il lui dit, « Alors, du thé ?» La mère dit, « C'est pas que ça dérange pas, c'est qu'il dit, t'a mis la théière à tes julots. Pourquoi ?»« Parce que l'autre, il veut du thé. On prend pas la tisane l'après-midi. Alors, où est-ce que c'est ce truc ?» Il entend dans la cuisine du bruit. Philippe se sent gêné. Il se dit qu'il a fait une grosse gaffe, une très grosse gaffe. Il ne recommencera plus et demandera de l'eau. Daniel va s'asseoir sur une chaise en face de lui. Et dit, c'est pas aussi bien que chez toi? Philippe lui dit, si, c'est très bien. Et en aime encore plus son ami. Pas par
pitié, mais parce qu'il voit là, dedans, au milieu de ses ploucs, ça lui paraît formidable qu'il puisse se mouvoir aussi bien dans le monde, vu le monde où il vit. On entend une porte qui claque. Qu'est-ce que c'est que ce graffu ? Daniel dit. C'est mon frère. Fais pas attention. La voix de la mère dit. C'est ton frère qui fait venir un copain. Il a même amené à la salle à manger. Comme si j'avais pas assez de travail comme ça. La voix du frère dit. Ça m'étonne pas, de salaud. Il faut toujours qu'il sorte avec des bons à rien. Philippe se sent très gêné. Daniel dit, ne fais pas attention. Philippe dit, ton frère doit être sûrement quelqu'un de très bien. La porte s'est ouverte. Est entré le frère. Il ressemble au père, très abruti, habillé d'un t-shirt noir et d'un jean. Il va vers eux et dit « Qu'est-ce que tu fais venir des étrangers à la maison? Tu es culotté, tu fréquentes des cons, tu les emmènes à la maison. » Philippe est très gêné. Daniel se lève furieux et dit à son frère, tu vas t'excuser de ce que tu as dit. Tu as été d'une impolitesse. Non, je ne m'excuserai pas. C'est toi qui vas t'excuser d'amener des cons ici. La porte s'ouvre. Le père apparaît. Il crie, qu'est-ce que tu me passes ici? Le frère dit, hein? Que Daniel fréquente des cons, tu l'as dit toi-même. Un pas, il n'a pas le droit, c'est de le faire venir ici. Daniel, honteux, furieux, se met à crier. Arrêtez, ça suffit, j'en ai assez. Le père lui dit, qu'est-ce qu'il a gueulé comme ça, celui-là? Hein? On reçoit un copain. Et on gueule après, il me gueule après. Le frère dit, il n'est jamais content, il fait rien et critique tout. On n'est pas assez bon pour lui. Philippe ne sait plus s'il faut rire ou pleurer. Pleurer pour le pauvre Daniel, en tout cas. Il a pitié de lui et il ne pense plus à l'humiliation qu'il a eue. Il se dit que les gens du peuple sont étranges. La porte s'ouvre. C'est la mère qui vient avec un bol fumant, une tuyée et une boîte en carton pour le sucre. Boîte à sucre en carton. Elle dit, ça y est, j'ai fait le thé. Je vois que vous avez beaucoup parlé et on vous entendait jusque dans la cuisine. Vous avez sympathisé, j'en suis heureuse. C'est fait longtemps que Roland n'a pas assez aussi parlé. Il a avec des inconnus. Ton copain Daniel lui plaît sûrement. Roland dit, non, c'est un con. Elle demande, alors, pourquoi est-ce que tu parlais si fort? Pour le dire que c'est un con. Elle dit à Philippe, asseyez-vous pour boire le thé. Éléphant, attention à ne pas tâcher mon canapé. Philippe prend le bol fumant. Un grand bol émaillé, blanc et bréché. Elle demande. Vous voulez combien de sucre ? Il dit, c'est bon, merci. Et elle demande, ça fait combien ça ?
Roland dit,
c'est bon, oui, comme ça. Pas la peine de lui donner du sucre. C'est bien assez pour lui.
Philippe boit petite gorgée le thé bouillant. Il n'a pas beaucoup d'auteur et a été mal infusé. Il en reste des morceaux de thé.
Tous le regardent bouche bée. Le père dit, moi, je peux pas boire cette tisane. Je préfère le marnia. Le frère se gratte la tête.
Daniel attend que Philippe ait fini pour se sauver. Philippe boit le plus vite qu'il peut cette chose et puis foutre le camp.
Mais c'est chaud et il y en a beaucoup à boire, Roland dit. Pourquoi est-ce qu'il y a que lui qui boit ?
La mère dit.
Parce que c'est l'invité. Et faut que l'invité qui connaisse les manières chez nous.
Roland dit,
mais on les connaît, les manières. On a bien fait les manières avec lui. Il est assis sur le canapé, ça mastique. Et tout le monde l'a vu. Et on l'a parlé.
Elle dit,
je sais.
Philippe prend plaisir à tout ça. C'est tellement bizarre. Oui, tellement bizarre.
Ouf, il a fini de boire. Tous font ouf.
Philippe va pour poser le bol sur la table basse.
Vite, la mère le prend des mains et lui dit, il faut pas salir la table. Merci.
Philippe, un peu essoufflé, dit,
merci, madame. Elle est toute fière. On l'a appelée, madame. Elle dit, ça, c'est la preuve qu'on l'a bien reçue.
Philippe, épuisé, se lève et dit,
je crois qu'il est temps, c'est de nous en aller.
La mère dit,
déjà.
Le frère dit,
mais non, laisse-le partir.
La mère dit,
c'est qu'on a été un honneur à mon honneur de vous avoir chez nous.
Le frère se gratte la tête pour chercher à comprendre ce que ça veut dire.
Philippe dit, mais de moi, madame. Il dit, il t'a compris, tu parles comme eux.
La mère est toute rouge de fierté. Philippe et Daniel se dirigent vers la sortie de la pièce. Ils entendent derrière eux leur dire,
tu pourrais ranger le désordre tout de même.
Se retourne et voit le père ranger les housses plastiques sur le canapé.
Le frère dit, il fait jamais rien à la maison. Il fait venir des étrangers pour nous critiquer.
La mère dit,
toi qui ne connais rien au monde.
Il lui dit, et toi?
Elle lui fait, tu as vu, il m'a parlé à moi. Il m'a répondu.
Le père dit, voilà qu'elle se prend pour une femme du monde.
Le frère dit, oh, tu parles.
Daniel, buté, fait sortir Philippe de chez lui.
Une fois dehors, il lui dit, tu comprends pourquoi je me sens mal chez moi?
Philippe lui dit,
ils sont simples.
Mais il ne faut pas les juger. Tu es trop bon. Ils t'ont traité de con. Et il lui dit, ça n'a pas d'importance. Il ne faut pas penser. Et se mettre à leur niveau, voilà ce qu'il faut faire. Daniel lui dit, tu vas me prendre indigne de ton amitié. Philippe lui dit, bien au contraire, j'ai beaucoup d'estime, et même plus maintenant pour toi. Et il s'éloigne. Et ils n'ont plus reparlé de cette visite. Philippe a pitié de son ami et se dit qu'il doit être très malheureux de vivre dans ce milieu. Que c'est normal qu'il cherche à s'en évader, mais qu'il devrait faire vraiment quelque chose pour en sortir. Comme par exemple, prendre des cours pour avoir un diplôme, apprendre un métier, au lieu de chercher à faire le pique-assiette et peut-être même le gigolo. Ça ne mène pas à grand-chose tout ça. Des fois, il lui dit qu'il devrait reprendre ses études. Daniel lui dit, je ne suis pas très fort pour ça. Ça n'entre pas facilement dans ma tête. Mon esprit vagabonde vite et j'invente des choses. Et puis, moi, et écouter, ça ne marche pas. L'écriture non plus. Je fais des fautes d'orthographe terribles. Il lui dit, ça peut s'arranger avec quelques leçons le soir. Daniel lui dit, le soir, j'aime mieux m'amuser. Et il lui dit, oui, mais la vie est courte et si tu n'as pas de situation, tu n'arriveras à rien. Pour le moment, tu es jeune, mais plus tard, Daniel aux épaules lui dit, il ne faut pas sacrifier le présent pour le plus tard. Philippe lui répond, ni le présent ne doit sacrifier l'avenir. Daniel soupire et dit, alors c'est un cercle vicieux. Et il se met à rire. Philippe se dit que lui aussi a ses problèmes et qu'il agit comme Daniel. Il ne veut pas connaître la vérité pour que le présent puisse être agréable. Les jours passent. Philippe va chercher Daniel pour lui montrer qu'il ne lui en veut pas et ne le dénigre pas. Il sonne chez lui. Mais n'entre pas. Dis simplement, bonjour, je viens chercher Philippe. La mère demande, tu n'entres pas? Il lui dit, non merci madame, nous sommes en retard. Elle crie, Daniel, viens, ton copain est pressé. Et Daniel accourt. Il comprend pourquoi son ami fait comme ça et l'en est gré. Ça le soulage d'une nouvelle scène déplaisante. Surtout que la plupart du temps, le frère est dans une humeur terrible. Il est morose. Il est jaloux que son frère sorte beaucoup et ait des copains, des copines. Lui n'en a pas. Et puis, il a des fougues sexuelles terribles et des envies folles. Et aucune fille qui veut l'aider à se soulager. et je vous disais, c'est de se débrouiller tout seul dans sa chambre avec sa main en regardant le catalogue La Redoute. Philippe va aussi chercher Caroline. Là, c'est simple, elle vit seule et il connaît déjà chez elle. Et puis elle, elle s'en moque de comment elle vit. C'est toujours le bordel chez elle. Les vêtements en désordre, mis n'importe où, qu'elle enlève vite fait. Ses choses pour se maquiller et son parfum de partout, même près des aliments, la table jamais nettoyée, ni l'évier. Philippe vient chez elle. Elle le fait entrer. Elle n'est pas prête et le reçoit en petite culotte. Sans gêne, elle lui dit « Pardonne-moi, mais je suis en retard. » Et tourne en rond, à danser, à chercher des choses pour se préparer. Ça ne le gêne pas. C'est une copine. Et puis il la connaît par cœur. Même mieux que s'il avait couché avec elle. Parce que là, il la voit au naturel, en entier. Elle se comporte comme si elle était seule. Ça le fait rire et le déconcerte des fois. Surtout lorsqu'elle va au WC et ne ferme pas la porte, elle la laisse entrebâillée pour continuer à parler. Elle parle beaucoup de ses rôles qu'elle a joués. Elle joue beaucoup de rôles de serveuse. C'est-à-dire qu'elle fait la même chose devant la caméra et derrière la caméra. Parce qu'en dehors de ses rôles, elle est serveuse pour de vrai. Mais pour la caméra, là, elle dit. Là, c'est un rôle de composition, un vrai. Je dois jouer une serveuse et qui connaît son métier. En plus, je dois rendre la monnaie et demander ce qu'ils veulent, dire le prix. Je dois me concentrer. Et plus j'ai un texte long, plus je gagne et monte en grade. C'est dur de jouer ce genre de personnage que l'on ne connaît pas. Il faut se mettre dans sa peau et l'on doit imaginer toute sa vie, son nom, sa vie sentimentale, familiale, etc. On ne nous dit rien. Le metteur en scène nous laisse seuls. Et on doit tout inventer, son personnage. C'est même plus dur que pour un rôle principal où là, on n'a rien inventé. Tout est marqué sur le scénario, même si le personnage a eu les amygdales. Chez nous, rien de rien. Nous avons un travail d'acteur plus profond, tu comprends ? Oui, tu comprends ? Philippe lui dit. Mais tu ne pourrais pas jouer comme ça, sans chercher à savoir qui est cette serveuse ? Ah non ! Je n'aurais pas l'expression. Tu comprends, une fille qui a eu du malheur, ce n'est pas la même chose qu'une autre. Ça se voit sur l'écran. Mais qui te demande quel est des malheurs ou autres ? Elle lui dit. Il lui répond. Tu ne comprends rien. C'est pour personnaliser mon rôle. Pour éviter que toutes les serveuses ne soient pas les mêmes dans les films. Il n'y a que ceux qui ont de grands rôles, qui peuvent jouer toujours la même chose et de la même façon. Le public les aime comme ça. Tiens, Adjani, elle peut jouer n'importe quel rôle, elle le jouera toujours pareil. C'est comme ça. C'est la vedette, il faut qu'elle soit comme ça. Nous sommes de vrais comédiens et l'on change de personnage à chaque rôle. Eux n'ont pas besoin de le faire. Eux, ils ne jouent pas, ils sont eux. Mais nous, nous jouons, tu comprends ? Il lui dit, oui, alors tu ne voudras jamais être une grande actrice parce que tu préfères jouer la comédie et jouer des rôles. Elle lui dit, c'est le drame de notre profession. Dès que l'on est grand acteur, on ne peut plus jouer. Mais si l'on ne devient pas grand acteur, on a l'impression d'avoir raté sa vie d'acteur. Et pour la réussir, il ne faut pas être acteur, mais être soi, pour jouer toujours le même personnage, même dans la vie. Toujours jouer de la même façon, quel que soit le rôle que tu joues. Terrible. Alors, que faire ? Pour l'amour de l'art, il faudrait que l'on soit toujours dans l'anonymat et jouer. Mais il faut avoir de la force et du courage pour refuser, pour l'amour de l'art, une carrière de grande vedette. Et puis, on peut être remarqué et propulsé malgré soi vedette. Et là, c'est l'horreur. La vie est bouleversée. Plus de vie privée, plus de rôle, rien. Qu'être vedette d'une vie avec vie privée, sans vie privée, que pour Voici et France Dimanche, quelques films, par-ci par-là, sans aucun rôle, la déchéance, et l'on finit sa vie alcoolique, droguée, tentative de suicide, tout ça parce que l'on regrette sa carrière de comédienne. Il lui dit, tu devrais s'arrêter ce métier, elle lui fait. Surtout pas. Et puis, tous les métiers ont des ennuis. Le nôtre, c'est d'être vedette. Il lui dit, heureusement que ce n'est pas la veille que tu le deviennes. Elle lui fait vexer. Qu'est-ce que tu en sais ? J'ai beaucoup de succès. Et puis, même, j'ai été remarquée. Ça le fait rire, ces conversations. Il se demande si elle se rend compte de tout le paradoxe qu'elle dit. Maintenant, elle s'habille mieux et se maquille, disons, d'une façon un peu plus parfaite. Pendant que Philippe est à ses cours et avec ses amis, Lon, lui, travaille. Il signe des contrats pour la vente de ses produits. Il travaille surtout en sous-traitance, comme beaucoup d'industriels, pour le groupe Franblanc, que vous connaissez bien entendu depuis l'élu. Il entre justement dans le siège Franblanc. Vous le connaissez pour y être entré très souvent. Une hôtesse en tailleur rouge, moulant et nue dessous, blonde, grande, va à lui. Vous désirez, monsieur ? Elle lui dit, j'ai rendez-vous avec monsieur Franblanc. Elle lui dit, veuillez me suivre, monsieur. Il lui fait, très volontiers, mademoiselle. Très, très volontiers. Et il suit cette charmante jeune fille aux jambes longues et jupes courtes moulantes, très courtes même. Franblanc embauche d'anciennes danseuses du Lido pour la cogne. Elle le mène à une banque où se trouve une jeune fille, habillée comme elle et blonde, lui dit « Un rendez-vous avec monsieur Franblanc » et elle les laisse. La femme à la banque demande « Vous êtes monsieur ? Il lui dit,
je suis monsieur Allemand, Joseph, et j'ai rendez-vous à 15h.
Elle regarde sur son ordinateur. Elle lui dit,
oui, je vois votre nom, votre carte s'il vous plaît.
Il lui donne sa carte. Elle la met sur l'écran.
Votre pouce.
Il lui dit avec le sourire, avec plaisir, je le mets où?
Elle lui dit, simplement sur l'écran, monsieur.
Il lui fait, dommage.
Et le met sur l'écran. Elle regarde et dit, c'est bon. Lui rend sa carte. Prend le téléphone et fait un numéro.
C'est l'accueil. Non, c'est Bella. Ça va?
Oui, moi ça va.
On se voit ce soir au restaurant? Bien. J'ai à l'accueil un monsieur allemand qui a rendez-vous à 15h. Non, c'est pas le type de François. Bon, je le fais monter.
Elle décroche.
Bon, nous allons vous mener à monsieur le président, monsieur.
Elle fait signe à une autre poupée Barbie du Lido, une de ses collègues. Elle lui dit,
monsieur, rendez-vous avec le président.
La fille dit,
bien, veuillez me suivre, monsieur.
Et il suit cette sirène. Elle le mène à l'ascenseur.
Ils sont entrés dans l'ascenseur. Il y a dans l'ascenseur un garçon d'ascenseur d'un 15 ans, blond, habillé d'une tunique moulante rouge. Il en faut pour tous les goûts et l'on trouve tout ce que l'on veut à franc blanc. Dans l'ascenseur, il y a une espèce de femme bizarre, large, de taille moyenne, cheveux jaunes vifs, très épais, tête ronde, yeux globuleux, grande bouche, maquillée à outrance. Elle porte un tailleur moulant, nu dessous et trop petit pour elle. Elle a des chaussures à talons jaunes vifs. Elle a des boucles d'oreilles et un collier de chez Mati. Elle ne cesse de regarder le beau monsieur qui vient d'entrer dans l'ascenseur. Et lui regarde l'hôtesse. Enfin, ils arrivent à l'étage. Sortent de l'ascenseur. Ils suivent un long couloir où, tout au bout, se trouve une vaste porte capitonnée. Tout le long du couloir, il y a des gardes habillés de rouge. La jeune femme belle, monsieur Allemand, à la porte. Là, elle appuie sur un bouton. La lampe verte s'allume. Ils entrent. C'est un bureau. Un grand bureau où se trouve une secrétaire assise à son bureau. L'hôtel amène M. Allemand au bureau et dit à la secrétaire, « Monsieur Allemand a rendez-vous à 15h. » Et elle les quitte. La secrétaire demande à M. Allemand, « Votre carte, s'il vous plaît, monsieur. » Il lui donne. Elle la met sur l'ordinateur. Votre pouce, s'il vous plaît.
Il le met sur l'écran. Elle regarde sur l'écran et apparaît la photographie de M. Allemand, ses empreintes ADN et avec celui du pouce, son nom, son adresse, numéro de sécurité sociale, de compte en banque, emploi et s'il appartient au groupe, son appartenance politique et religieuse, etc. Bien entendu, s'il appartient à un groupe politique ou religieux, il faut que ce groupe politique ou religieux et religieux soit de bon ton. Et la nationalité aussi, et ses origines. Et sa nationalité depuis combien de temps? Pour sa famille aussi. Dans sa carte, elle dit « Bien, monsieur ». Elle prend le téléphone, fait un numéro. Allô? Allô, monsieur? C'est la secrétaire. J'ai près de moi monsieur Almond qui a rendez-vous avec vous à 15h. Puis-je le faire entrer? Bien, monsieur. Elle a raccroché et dit à monsieur Almond je vais vous faire entrer. L'entretien ne doit pas se prolonger au-delà de 20 minutes. Monsieur le Président a beaucoup de rendez-vous. Elle se lève et lui dit « Veuillez me suivre, monsieur. » Elle le met vers une porte à deux battants capitonnés où il y a une caméra, un microphone et une lampe. Elle appuie sur un bouton. Le voyant vert s'allume. Elle fait entrer monsieur Almond. Le bureau est immense, avec une grande baie vitrée qui fait tout le côté du mur. Elle donne sur une grande terrasse, jardin, piscine. Derrière cette baie, il y a un grand bureau, une grande table de bureau qui est en verre. Elle est immense. Se trouve le téléphone avec écran vidéo, l'ordinateur aussi. Il y a devant le bureau deux fauteuils de cuir noir. À la gauche du bureau, qui fait tout un pan de mur, il y a une grande bibliothèque. Un peu plus loin, même beaucoup plus loin, un petit bar avec ordinateur. Plus loin encore, il y a le coin salon avec fauteuil, canapé, table blanche et bar en plus. Le tout est clair, lumineux, mur blanc et sol de marbre, tableau de maître sur les murs aussi. Monsieur Franblanc, que vous connaissez depuis l'élu, lorsqu'il voit entrer M. Almond, se soulève et lui dit « Venez vous asseoir, M. Almond. Monsieur le Président. » Franblanc lui dit « Pas de président entre nous. Nous sommes tous les deux présidents. » Almond va s'asseoir en face du bureau où il y a deux fauteuils. Prend celui de droite. Le Franblanc lui dit « Vous avez... demandez à me parler, je vous écoute. » Joseph lui dit « Voilà, je suis venu pour me renseigner, pour m'informer. Je trouve que mes commandes sur mes produits pour le bâtiment diminuent d'une façon très inquiétante. Alors j'aimerais être assuré si c'était possible. » Franblanc lui dit « Oui, nous avons... hélas, ralentit la fabrication des immeubles bien volontairement. C'est à cause des contestations et émeutiers qui nous empêchent de travailler normalement, qui bloquent la démolition et freinent la construction. Vous savez qu'à Lyon, la réhabilitation de la ville est presque nulle. La ville est en feu et à sang. Les anarchistes veulent tout faire pour nous empêcher de travailler. Ils font même dérailler les trains de marchandises qui amènent nos produits. Non, bloqués, les chantiers attaqués. Tout ça, c'est nous déséquilibre. Joseph lui demande, et que font nos hommes en noir, les hommes de l'ordre? Nos hommes
sont débordés. Mais ils font du bon travail, surtout à Paris, où ils évacuent les quartiers et les démolissent en une nuit. Quand je dis les quartiers, c'est plutôt les rues. Mais à Paris, il y a aussi des émeutes et on perd beaucoup de temps à cause de ça. Tout ceci ralentit notre production. Et en plus, nous avons cette guerre en Afrique, mais qui nous permettra pour plus tard de reconstruire, et en reconstruisant, de refaire marcher à fond notre production. Là-bas en Afrique, lorsque la guerre sera finie, ce sera plus simple qu'en France, moins de choses à démolir. Et puis, parce qu'ils ont beaucoup moins de villes qu'ici, et les gens sont plus calmes, dociles, donc moins d'émeutes. Joseph lui dit, « Oui, mais la guerre dure. » On lui dit, « Elle ne durera pas éternellement. » Et nous avons déjà des rapports avec des chefs, des gouvernements qui sont prêts à nous aider à la gagner, cette guerre. Nous leur avons fait miroiter une bonne somme et un exil sur la Côte d'Azur. Il suffit que l'on attende et notre production marchera à plein régime. Allemand lui dit, « Oui, mais en attendant, vous avez vos usines d'armement qui marchent en plein régime à la place du bâtiment. » Franman lui dit, « Mais vous aussi ?»« Oh, moi, c'est qu'une petite partie de notre groupe et vous nous refusez de nous lancer dans certaines fabrications. Vous savez bien que nous ne faisons que ce que vous nous proposez de faire. » Foin Blanc lui dit, « Oui, nous ne voulons pas que vous lanciez dans le nucléaire. C'est à nous de le faire. Nous pouvons le faire pour vous, non ?» Allemand soupire et se dit que s'il était indépendant, il pourrait faire ce qu'il veut. Ah, s'il pouvait se passer de ce Franc Blanc, il pourrait être plus fort que lui. Il a la technique, mais pas les moyens. Et puis Franc Blanc a les exclusivités de tout. Tous les pays ont traité avec lui. Il ne reste plus rien aux autres. Et si un autre veut grossir, se passer de lui, il finit dans une boîte en aliment pour chien ou chat. Allemand lui demande, que faisons-nous puisque la fabrication de produits du bâtiment est bloquée ou presque? Quoique je vous ai amené en offre de fabrication de la toiture très légère et ressemblance à de l'ardoise et une grue électrique à laser. C'est le rayon laser qui fait déposer le matériel au millimètre près. Il sort de son dossier deux chemises. Franc Blanc lui dit, donnez-les-moi, je vais faire étudier tout ça. Mais je vous promets rien, j'ai fait bloquer le budget bâtiment pour l'armement. Joseph lui demande, vous faites toujours des résidences de grand luxe? Ça oui. Eh bien, ça ira très bien pour ce genre de construction. Franc Blanc lui dit, nous verrons. Bon, pour le moment, je ne vais pas vous commander plus de commandes que ce que nous vous demandons. Mais soyez patient. Pour ce qui est de l'armement, je vous demanderai des mitraillettes à faire sous une marque quelconque et sans nom français. C'est à donner aux Africains. Nous avons réussi, c'est à voir leur marché avec l'armement africaine. Bien entendu, les mitraillettes seront moins performantes que les nôtres. Eh oui, mon cher, les affaires sont les affaires. Nous armons l'armée ennemie pour plus produire. Ils sont obligés, c'est de l'acheter chez nous, malgré que nous soyons en guerre, que nous sommes en guerre contre eux. Parce qu'ils n'ont pas d'usine d'armement. Qui fait que s'ils ne faisaient pas, ils ne pourraient pas avoir d'âme. Et puis, ça nous arrange. On gagne de l'argent des deux côtés. Et que ce soit l'un ou l'autre qui la gagne, cette foutue guerre, de toute façon, on est gagnant des deux côtés.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Junier Jean-Pierre, La liberté des dieux. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.